Quelle?
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui analyse la manière dont le numérique et les nouvelles technologies bouleversent nos vies. Et ce soir, nous intéressons à une question transverse, celle de la sous-représentation des femmes dans le monde de la tech. De la programmation au poste de direction, une étonnante absence d'un genre dans un univers qui se dit pourtant progressiste et inclusif. Comment expliquer historiquement et sociologiquement ce delta entre les promesses et la réalité? Quels sont les effets de cette sur-représentation masculine dans les usages du numérique, des assistants vocaux aux algorithmes qui sont parfois dans le sexisme, quid de la formation et des solutions, bref, à quand la révolution? Pour en discuter ce soir, trois invités. Isabelle Collet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en sciences de l'éducation à l'Université de Genève, auteur notamment des Oubliés du numérique. Vous pourrez autant nous éclairer sur la domination masculine et la division sexuelle du travail dans la tech que sur les bonnes pratiques qui favorisent l'inclusion des femmes. À vos côtés, Déborah Loye, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de Sista, un collectif visant à réduire les inégalités entre femmes et hommes entrepreneurs. Vous pourrez nous expliquer comment vous accompagnez de jeunes start-upeuses à lever des fonds tout en déjouant des clichés tenaces. À distance, Anne-Marie Carmarec, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse en informatique, professeure à l'EPFL, c'est en Suisse, cofondatrice de la start-up Medigo et auteure du numérique Comptez avec les femmes, et on comptera donc sur vous pour délivrer votre expérience de terrain. Comme d'habitude, il y aura le journal des actualités de la tech de la semaine et la chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama, qui nous parlera de l'archétype de la girl boss. Voilà le programme, chers amis du meilleur des mondes, où nous sommes ensemble en direct jusqu'à 22h sur France Culture.
93% du mouton levé pour les startups qui sont spécialisées dans les technologies innovantes appartiennent à des hommes. Donc on est dans un rapport 93-7 qui est pourtant dans un secteur d'avenir. Et tant qu'on sera dans une inégalité économique et qu'on ne donnera pas d'argent aux entreprises qui sont gérées par des femmes, on ne pourra pas faire en sorte de créer une culture du numérique qui soit agréable pour les femmes. Et c'est extrêmement important de financer les entreprises qui appartiennent à des femmes. Pourquoi ? Parce que finalement, elles vont répondre à des besoins via des produits et des services dont les femmes ont vraiment besoin. Et les femmes n'auront plus à s'adapter à un secteur pour pouvoir réussir. Elles pourront être elles-mêmes finalement.
Alors avant de faire la révolution, il faut partir du constat. Voici des chiffres cités par la journaliste Rebecca Msalem au micro du téléphone Sony. Ils datent de 2019. Ils sont assez flagrants. Qu'en est-il depuis, Déborah Loye, par rapport aux chiffres qui ont été énoncés?
Alors on a montré dans un baromètre Sista BCG que en 2020, 90% des fonds injectés dans les startups en France étaient dirigés vers des équipes fondatrices 100% masculines. Donc ça a évolué un tout petit peu, clairement pas assez.
Oui, parce que là on est vraiment sur 90-10, enfin je veux dire c'est vraiment un chiffre flagrant. Ça nous rappelle des chiffres d'élections dans des pays, dans des dictatures, où on dit qu'il a été élu à 90%. C'est incroyable quand même cette différence.
C'est une vraie claque, oui, quand on entend ces chiffres. La démarche de Sista depuis le début, ça a été de compter les femmes pour que les femmes comptent. On s'est dit on va devoir aller confronter ces investisseurs et cet écosystème avec le langage qu'ils comprennent, qui est le langage des chiffres. Effectivement, c'est absolument vertigineux et c'est totalement inacceptable en 2022 d'en être toujours là. Il est grand temps que ça change et c'est tout un écosystème qui doit se remettre en cause. On rentrera dans le détail des rouages qui fait qu'on est arrivé là aujourd'hui. Je pense qu'il y a une vraie sonnette d'alarme à tirer pour que les choses changent et vite.
Alors justement, au-delà là, des entrepreneuses, des startups, Isabelle Collet, quelle est la part représentée par les femmes dans les métiers du numérique au sens large?
Alors si vous êtes au sens très large, je dirais dans les 30%. Mais c'est un faux semblant, parce que dans ces métiers, il y a ce qu'on appelle les fonctions de support, le marketing, les RH, qui sont des fonctions tout à fait féminisées. C'est pas la tech elle-même. Dans les métiers vraiment techniques, en gros, on est à 15%.
C'est-à-dire que pour bien comprendre tout ce qu'on appelle le back-office, enfin derrière la machine, les programmateurs, c'est plutôt des hommes à une très très forte représentation et proportion. Et dès qu'il s'agit, où il y a une petite représentation, ou qu'on est un petit peu devant, c'est un peu plus de femmes?
Alors c'est même pire que ça, c'est-à-dire que quand je parlais de ces métiers de support, ce sont des métiers qui ne sont pas techniques, mais qui sont dans l'économie du numérique. Donc une entreprise peut vous dire, chez nous on a 30% de femmes, parce qu'en fait, au marketing, voilà, il y a effectivement des femmes dans la partie la plus tertiaire, la tech elle-même, non, c'est, ça reste très rare. Et à l'intérieur des métiers de la tech, il y a encore une subdivision. En gros, c'est facile, plus c'est prestigieux, plus il y a les mecs. Actuellement, en cryptographie, parce qu'en plus ça croise des enjeux militaires, c'est extrêmement masculinisé. En big data, l'IA, on a un léger progrès, mais globalement, plus le métier du numérique est de pointe, plus il est masculinisé.
Alors Anne-Marie Carmarec, est-ce que vous partagez ce constat depuis votre expérience ici de terrain que vous avez en tant qu'entrepreneuse, ancienne entrepreneuse, puisque vous avez fondé une start-up que vous avez, je crois, cédée depuis, mais vous l'avez exercée pendant longtemps, cette fonction-là?
Bon, absolument. Moi, j'ai été donc étudiante en informatique. Hein. On est donc les 15%, c'est à peu près ce que ça représentait à l'époque. J'ai été chercheuse. C'est encore la même chose qui s'est avérée dans mon expérience de start-up également. Donc vraiment sur toute la lignée des métiers du numérique. En tout cas, mon expérience personnelle, elle n'est pas meilleure que ça en termes de proportions. Et malheureusement, on continue de constater cette très faible représentation féminine chez nos étudiants. Aujourd'hui, dans les départements d'informatique, c'est encore un petit 15% qui s'investit dans l'informatique, par exemple. Et donc, évidemment, on peut pas les retrouver à très grande proportion après dans les métiers. Et en outre, ce sont des carrières qu'elles abandonnent plus rapidement que les hommes, hein, qui ont tendance à rester dans la tech. Donc, non seulement on a un très faible vivier au niveau de l'enseignement, mais quand bien même on a réussi à les attirer au niveau du supérieur, elles n'y restent pas parce que ce sont des métiers extrêmement masculinisés et qu'elles ne se sentent pas nécessairement très à l'aise et qu'elles ne montent pas aussi rapidement.
Et justement, elles n'y restent pas parce qu'elles ont l'impression de se sentir dans une sorte de boys club ou de boys band?
Alors ça, je pense que c'est avéré, effectivement. Encore une fois, moi, j'ai une expérience qui commence d'à peu près 25 ans dans le secteur. Donc, quelque part, on s'habitue. Hein, quand on est une femme dans un milieu masculin, on commence malheureusement à ne plus y prêter nécessairement attention. Ceci étant, on y est quand même, alors, victime, c'est peut-être un grand mot, mais on est dans cet état où, bon là c'est peut-être le cas sur votre plateau aujourd'hui, vous êtes entouré de femmes, mais quand on est H24, comme diraient les jeunes, entouré d'hommes, voilà, c'est pas forcément, toutes les femmes ne s'y retrouvent pas, outre le fait qu'il y a effectivement cette notion de boys club, elle est très très répandue, y compris dans les plus prestigieuses entreprises de la Silicon Valley, où c'est essentiellement des hommes, mais à force, elles finissent par craquer, pas toutes, hein, mais c'est un facteur aggravant, effectivement.
Alors, pour revenir justement sur une perspective un peu historique, Isabelle Coël, les femmes, elles ne sont pas que absentes, on les a aussi poussées dehors au fil du temps.
Alors, les femmes n'ont jamais été majoritaires en informatique, mais comme je disais tout à l'heure, l'informatique, c'est pas un seul secteur uniforme. Historiquement, il y a eu la machine, la construction des ordinateurs, le développement des ordinateurs et la programmation. Ce qu'on appelait hardware et software. Et ces deux termes qui sont genrés, comme on dit encore science dure, science molle, par exemple, ils sont pas genrés par hasard. C'est parce que dans le hardware, qui avait de la valeur, qui était les métiers de l'ingénierie, il y avait des hommes. Et dans le software, qui ne s'apprenait pas dans les universités, qui était en cours de développement, qu'on inventait au fur et à mesure qu'on programmait, en quelque sorte, qui était peu reconnu, pas diplômé, pas payé, il y avait les femmes. Et d'ailleurs, les pionnières de l'informatique qui ont fait des découvertes absolument fondamentales dans le domaine, alors on parle beaucoup de la première personne à avoir écrit un programme, Ada Lovelace, sur une machine mécanique à la fin du 19e siècle, c'était une femme, parce que Charles Babbage, l'ingénieur, lui, s'intéressait au truc sérieux qu'était la machine elle-même. La personne à avoir inventé la compilation, c'est Grace Hopper, première femme à être homme de l'année en 1968 pour le monde du numérique, mais parce que la programmation, ça intéressait pas. La programmation a commencé à avoir ses lettres de noblesse au moment où Margaret Hamilton a écrit le programme avec son équipe qui a permis de poser le module Apollo sur la Lune en 69. Elle est la première personne qui revendique le titre d'ingénieur logiciel. Et à partir de cette époque-là, on se met à former à l'université des ingénieurs logiciels, des spécialistes de la programmation. Mais dans ces universités de sciences, il y avait des hommes, ce sont des hommes qu'on a diplômés, des hommes qui sont entrés, alors là je vous parle de quelque chose qui se passe plutôt aux États-Unis et au Royaume-Uni, ils arrivent dans des entreprises où il y avait des femmes, en général mathématiciennes, autodidactes, qui étaient déjà là, ils deviennent leur chef, éventuellement ils les licencient, et ils prennent toutes les places de la programmation à mesure que celle-ci prend de la valeur.
Oui, vous avez cité le nom de d'Ada Lovelace tout à l'heure. C'est vrai qu'on entend un peu plus parler aujourd'hui d'Ada Lovelace. Il y a même une école qui s'est montée il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Ada Tech School et qui se veut justement la plus inclusive possible. Mais pour autant, si on s'y intéresse pas de près, Ada Lovelace, elle a complètement disparu de l'histoire. Donc non seulement on ne sait pas franchement qu'elle a existé, mais il y a peut-être eu aussi une volonté de faire en sorte qu'elle ne soit pas comme ça trop présente dans le patrimoine technologique.
Alors, à vrai dire, l'informatique n'a rien de particulier en la matière. On a une disparition des écrivaines, des compositrices, des autrices de théâtre, et donc les sciences, elles disparaissent de la même manière. En fait, il y a un phénomène tout à fait curieux. On imagine qu'on est dans un progrès continuel et que l'égalité est en marche et que demain, on va y arriver, une espèce de progrès naturel, et qu'aujourd'hui, on est au meilleur moment de l'égalité, demain, ce sera mieux, et hier, c'était nécessairement moins bien. Donc, si aujourd'hui, on n'a pas de femmes dans le numérique, on en déduit qu'il n'y en a jamais eu. Et on ne va même pas regarder, même pas rechercher, si un jour, il y avait pu avoir des femmes, on présuppose qu'elles n'existent pas. Et comme elles étaient dans des disciplines qui, à l'époque, n'intéressaient pas, elles n'étaient pas mises en valeur, elles n'étaient pas conservées. Ada Lovelace, on ne l'a jamais totalement oubliée, vu qu'il y a même un langage informatique qui a été nommé en son nom. Donc, les spécialistes avaient gardé une mémoire de son existence. Mais pour le grand public, alors maintenant, on en parle un peu plus, mais je me souviens d'amphi d'informaticiens et informaticiennes, même si elles étaient 10%, à qui j'allais dire la première personne qui a écrit un programme, c'était une femme, les gens tombaient des nues. Ça leur semblait invraisemblable.
Oui, ça restait encore une référence d'initié, mais petit à petit, justement, ça progresse dans l'esprit du grand public. Anne-Marie Kermarek, vous souhaitez réagir?
Oui, alors c'est vrai que sur plusieurs points. La première chose, c'est concernant Ada Lovelace, c'est effectivement assez intéressant. Enfin, moi, j'ai fait des études informatiques, donc ça commence à dater. Hein. J'ai jamais entendu ce nom d'Ada Lovelace dans mes études, ou extrêmement peu. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on l'entend. Il y a des bâtiments qui s'appellent comme ça, il y a des prix, il y a des écoles, comme vous l'avez si bien dit. Donc, je pense que les choses s'améliorent un peu. On commence à redonner un peu des galons à cette femme-là. Effectivement, Ada Lovelace, elle était incroyablement brillante et précurseur, hein, puisqu'elle a vu 100 ans avant Turing, qui est le père de l'informatique moderne, qui avait cette notion d'universalité dans un ordinateur, hein, qu'un ordinateur comme celui que l'avait conçu Charles Babbage, qui savait faire quelques fonctions, en fait, était quelque chose de beaucoup plus général. Donc, voilà, aujourd'hui, on commence à lui redonner
le prestige que l'on méritait à l'époque qu'on lui doit, effectivement.
Ouais, voilà. Après, c'est clair qu'à cette époque-là, les mathématiciennes, elles faisaient ça en douce et qu'elles n'étaient pas très connues. C'était pas tellement un métier d'homme. Ça s'est pas tellement amélioré depuis. Et j'en voulais juste rebondir sur le côté, effectivement, prestige. Hein. C'est vrai que, comme disait très bien Isabelle, le problème de l'informatique, c'est qu'au départ, tant que c'était des métiers qui étaient un peu des métiers de petite main, quand on parlait de programmation, qui n'étaient pas encore très, très répandus, ça, c'était beaucoup des femmes qui s'y attelaient. Et qu'au fur et à mesure que la profession et le domaine a gagné en prestige, c'est pas tellement que les femmes l'ont déserté, c'est que les hommes s'y sont engouffrés massivement. Et c'est le cas, il y a un autre exemple très frappant qui est celui de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle l'apprentissage l'apprentissage automatique. Ouais, alors le machine learning, mais je voulais parler plutôt du NLP, c'est-à-dire de l'apprentissage automatique de la langue. C'était des domaines, moi je me rappelle quand j'étais étudiante, donc il y a quand même encore une fois un certain temps, qui étaient très peu valorisé en fait dans le domaine, et du coup c'était pas prestigieux, puis ça n'avait pas tellement d'intérêt, en particulier pour les hommes. Aujourd'hui, c'est redevenu massivement un secteur très féminin parce que c'est très porteur, c'est très utilisé et ça a un très gros futur. Donc il y a vraiment ce côté
masculin, vous voulez dire qu'il y a un phénomène un peu de prédation, c'est-à-dire qu'à partir du moment
Absolument.
Où ça devient intéressant,
c'est un très bon terme,
les hommes s'y intéressent et puis ils préemptent du moins le terrain et le marché. Déborah Loy, ce qui est surprenant, alors Isabelle Collet nous dit bon, c'est pas si symptomatique du milieu de la tech, le fait qu'on oublie les scientifiques. Et c'est vrai, on le sait. Rappelez-vous, pour reparler justement d'un exemple de la tech, de Wikipédia, on sait très bien que peu de femmes y figurent. Il y a même eu des collectifs, les 100 pages, qui essayent justement de pallier à tout cela. Mais néanmoins, on est quand même dans un secteur qui se veut justement progressiste, qui se veut ouvert. C'est un peu ça aussi la différence. Si on est dans des vieilles industries du siècle dernier, on pourrait imaginer que c'était la coutume de l'époque, que c'était comme ça. Mais là, attendez, on est face à des gens qui nous disent « on veut rendre le monde meilleur, on est l'avenir ».
Oui, c'est ça qui est d'autant plus choquant. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs hommes qui me demandent pourquoi est-ce qu'on les embête eux en particulier. Effectivement, on est en train de construire le monde de demain. Il y a des sujets d'usage, hein, évidemment. Moi, je me souviens d'une chercheuse en intelligence artificielle qui s'appelle Joëlle Pinault, qui m'avait raconté une anecdote assez intéressante à l'époque où elle était étudiante. Elle avait fait un stage dans une entreprise qui faisait de la reconnaissance vocale pour les hélicoptères, pour les pilotes d'hélicoptères. Et puis, c'est en arrivant en stage que ses équipes se sont rendues compte qu'ils n'avaient pas testé leur outil sur la voix d'une femme. Donc voilà, on a des exemples très concrets, hein, de problèmes, de biais dans les algorithmes, notamment parce que autour de la table, il n'y avait pas une diversité suffisante. Moi, j'aimerais souligner aussi, effectivement, les femmes ont été chassées de la tech et la tech est devenue un secteur extrêmement rémunérateur. Alors, très risqué aussi, certes, mais aussi très rémunérateur en termes financiers. Et puis, évidemment, avec un impact majeur sur la société. Aujourd'hui, on voit le pouvoir qu'ont des sociétés comme les GAFA, des Google, Facebook, enfin qui s'appellent Meta maintenant, ce sont Amazon, etc. Ce sont des entreprises qui ont un impact énorme sur le monde, qui ont un pouvoir politique qui est absolument monstrueux. Et donc ça a échappé aux mains des femmes à travers le fait qu'elles ont été chassées de la tech. Et c'est ça qui rend le sujet d'autant plus problématique.
Alors vous avez évoqué justement les GAFA, dont le premier G est celui de Google, ce qui va nous envoyer directement du côté de la Silicon Valley.
Un ingénieur de Google a soulevé une vive polémique en publiant des propos jugés sexistes dans une note interne. Il a finalement été renvoyé par le géant de l'Internet. Dans son mémo, James Damore justifiait par des causes biologiques la faible représentation des femmes dans le secteur technologique et dans les fonctions de direction. Cette affaire intervient alors que plusieurs scandales ont éclaté ces derniers mois, dénonçant le harcèlement et la discrimination dans plusieurs entreprises de la Silicon Valley.
Alors Isabelle Collet, en quoi ce mémo de James Damore, donc il y a quelques années seulement, est un cas d'école de la rhétorique sexiste?
Alors, il utilise, on va dire, de vieilles habitudes d'imaginer qu'en somme, parce que les femmes créent la vie à l'intérieur de leur corps, d'ailleurs c'est toujours amusant de dire ça parce que les femmes font les enfants, bah non, elles sont pas parthénogénétiques, hein, faut être deux pour faire un enfant, et donc quand on dit les femmes font les enfants, bah les hommes aussi, mais effectivement il y a un moment où l'enfant se crée à l'intérieur du corps des femmes, c'est elles qui accouchent, et de ce moment-là, ça conditionnerait leur état de pensée, leurs neurones, leurs hormones, enfin tout dans une femme ferait qu'elle serait moins adaptée, par exemple à la pensée logique, rationnelle, etc., etc. Et donc reprenant cette croyance et aussi parce que ça lui permettait de justifier sa position relativement peu importante au sein de l'entreprise parce qu'il ne progressait pas, il s'est mis à accuser son entreprise d'avoir une politique discriminante envers lui, envers les hommes de manière générale, ce qui expliquait pourquoi sa carrière ne semblait pas décoller. Alors évidemment, il l'a pas mis sous cette forme, hein. Ça se serait vu un peu trop, mais in fine, c'est ce que ça donnait. Et c'est quand même complètement hallucinant de penser qu'on a une politique en faveur des hommes quand on est sur du 90-10%. Enfin, je veux dire, en faveur des femmes, je veux dire quand on est sur du 90-10%. Enfin, c'est qu'on le fait quand même pas très très bien, quoi, si on est dans les proportions comme ça. Et surtout, dans ce genre de discours, ok, enfin, je dirais que la biologie, peu importe. Je pense qu'il y a essentiellement une construction sociale, mais même à la limite, peu importe. Si on parlait de tout à l'heure, est-ce que c'est des boys clubs? Imaginons une fille, deux filles, dans une promo de 40 en informatique. C'est des proportions très classiques, et encore, des fois, je suis même optimiste. Bon, bah, sur les 38 garçons qui sont là, en gros, il y en a 35. Ils sont plutôt sympas, ils regrettent qu'il y ait si peu de filles. Enfin, ça leur va bien, mais ils sont pas plus sensibles que ça. Et puis, il y en a 4-5, ils sont vraiment toxiques, harcelants et désagréables. Mais sauf que les filles, elles sont deux. Donc elles l'ont à temps plein. Et si sur ces 35 garçons, qui sont donc plutôt sympas, imaginez que chacun fasse une plaisanterie sexiste par mois. C'est rien, une plaisanterie sexiste par mois. Mais pour elles, c'est un jeu continu. Alors, je ne sais pas s'il y a une différence biologique, mais quand vous êtes dans une situation comme ça, je pense que la différence biologique, elle n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer par rapport à cette différence sociale qui, elle, est continue.
Oui, c'était ça qui était assez perturbant avec le mémo de James Damore, c'est de faire vraiment une hiérarchie entre les genres de manière assez claire. Et ça me rappelle d'ailleurs un propos de Peter Thiel, grand argentier de la Silicon Valley, cofondateur de PayPal, qui dans une note au début des années 2000 contestait potentiellement le droit de vote qu'on pouvait accorder aux femmes. Donc on est vraiment dans un sexisme qui est très ancré.
Qui est très ancré, qui est installé et... En plus, le raisonnement marche à rebours. C'est-à-dire, on imagine qu'il n'y a plus de problème d'inégalité parce qu'on est tous beaucoup trop intelligents, instruits pour être sexistes, racistes ou homophobes. Et donc, les différences qu'on voit encore, puisque ça peut pas être nous qui sommes inégaux, c'est nécessairement la biologie. Donc, en fait, le raisonnement, il est complètement à rebours. Donc, en imaginant, alors parfois aussi, il y a une espèce de sexisme bienveillant, entre guillemets, qui serait de dire les femmes sont tellement plus douées dans des compétences qui rapportent pas, et elles ont bien raison parce qu'on est tellement plus heureuses quand on est dans ces endroits-là que c'est normal que les choses se séparent, c'est-à-dire nous serions complémentaires. Bon, dans la complémentarité, malheureusement, moi j'explique souvent que la complémentarité, c'est un faux semblant, c'est-à-dire les hommes et les femmes sont complémentaires, ok, 8 et 2 sont complémentaires pour faire 10, mais 8 et 2 ont jamais été égaux. La complémentarité ne nous dit rien sur l'égalité.
Voilà, et du côté des investissements, on n'est pas du tout vers du 8 et 2, ni du 5 et 5. Il y avait aussi cet exemple d'entrepreneuse américaine qui, pour déclencher justement des investissements, signait non pas d'un prénom et d'un nom féminin, mais d'un prénom et d'un nom masculin. Et il y avait une expérience comparative qui a été faite en proposant le même produit. On s'est rendu compte que quand on signait d'un homme, on avait plus de chances justement d'arriver à lever des fonds et à convaincre des investisseurs. Vous, au sein de Sista, c'est ça que vous essayez de faire, vous accompagnez justement ces femmes pour essayer de trouver le bon discours, donner assez de confiance en soi pour justement aller déclencher les investissements.
Oui, aujourd'hui on sait que lorsqu'on est une femme, on a 30% de chances en moins de lever des fonds que lorsqu'on est un homme, et quand on lève 2,3 fois moins en volume. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces entreprises technologiques, on a nommé les grandes... Facebook, etc., ont besoin de l'argent, du capital risque pour se développer. On est sur des marchés aux effets de réseau, on est sur des marchés de winner takes all, comme on dit, où on a besoin d'être gros pour réussir. Et donc, c'est pour cela qu'on a besoin de l'argent de ces investisseurs. Donc, on en est complètement dépendant. Globalement, aujourd'hui, lorsqu'on lance une entreprise technologique, si on ne trouve pas ses fonds, eh bien, cette entreprise est bien souvent, malheureusement, vouée à l'échec. Et le capital est beaucoup moins accessible aux femmes aujourd'hui qu'aux hommes. Je trouve que c'est intéressant de parler de cette culture parce que on est obligé de parler de la culture du geek lorsqu'on parle de ces sujets de tech. Toute la narration qui a été créée autour de ce secteur-là a été totalement excluante pour les femmes. C'est-à-dire que lorsque moi j'étais adolescente, je me souviens très bien de l'image de ces garçons avec leur capuche sur la tête qui ne se lavaient pas.
Dans un garage
qui était tout de même très peu attractive pour les jeunes filles, les jeunes femmes que nous étions. Et donc cette culture s'est développée, ces hommes-là ont appris très tôt la programmation, souvent à travers des jeux ou des forums qu'ils développaient pour discuter avec leurs amis. Et puis petit à petit, ils se sont positionnés dans ce secteur en tant qu'entrepreneurs. Et puis de l'autre côté, vous avez les investisseurs qui, eux, sont à la croisée entre la tech et la finance, deux secteurs complètement masculins et qui donc ont un référentiel totalement masculin et qui ont beaucoup plus de mal à projeter effectivement le succès sur les femmes que sur les hommes. Les entrepreneurs femmes que l'on accompagne nous racontent toutes des anecdotes complètement choquantes sur la manière dont elles sont reçues par ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on ne leur pose pas les mêmes questions. Il y a des études scientifiques qui le prouvent. On questionne beaucoup plus leur ambition, on questionne beaucoup plus leur rapport au risque, parce qu'évidemment, une femme ne souhaite pas prendre autant de risques qu'un homme. C'est intéressant parce qu'en fait, quand on regarde, est-ce que les entrepreneurs sont plus averses au risque que le reste de la population? En réalité, non. Donc voilà, même si les femmes l'étaient, ça ne changerait rien.
Et puis quand une femme ose dire qu'elle aime prendre les risques, on peut peut-être la traiter d'hystérique ou de folle ou de tête brûlée, ouais. Alors que ça peut être perçu comme un avantage et de l'audace du côté d'un homme. Anne-Marie Kermarek.
Oui, je voulais rebondir sur deux aspects. La première chose, c'est que les femmes ont été chassées de la tech. Je pense que je sais même pas si elles ont été chassées de la tech, effectivement, mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut vraiment trouver ça extrêmement dommage qu'une science aussi jeune que l'informatique ait hérité des biais ancestraux, en fait. Et malheureusement, c'est le cas. Et je pense qu'une des raisons, c'est que malgré tout, l'informatique, d'une part, c'est quand même une émanation des mathématiques, puisque c'est venu après, et puis c'est une science toute jeune, et que du coup, elle a hérité de fait de tous les clichés qui étaient associés aux mathématiques, d'une part, et d'autre part, ben, c'est que c'est on attend, en fait, là je reprends sur l'aspect plutôt start-upper, effectivement, on attend d'un start-upper aujourd'hui, en particulier dans le domaine de la tech, que ce soit, alors en gros, un homme blanc là, qui a la trentaine et qui a envie de conquérir le monde. Et les femmes n'ont pas cette attitude de manière générale. Elles ont une attitude qui est parfois plus posée, qui est en tout cas beaucoup moins, qui représente beaucoup moins l'ambition. Voire c'est même pire, c'est le double standard. C'est-à-dire qu'une femme qui est ambitieuse, on va la trouver arrogante. Un homme qui veut conquérir le monde, on va le trouver ambitieux. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu ce double standard. Et du coup, il y a un manque de confiance qui s'installe et qui s'entérine, en fait, chez les femmes. Et pour revenir à ces entrepreneuses qui avaient justement, vous parliez de deux produits qui étaient exactement le même, soit présentés par des hommes, soit présentés par deux femmes. Il y a aussi ces deux entrepreneurs, ce qu'elles avaient fait, c'est qu'à un moment donné, elles s'étaient inventées un associé homme, et que les retours qu'elles avaient de leurs clients ou de leurs investisseurs étaient beaucoup plus positifs quand c'était un John ou un Peter qui répondait aux demandes ou aux mails. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des stéréotypes qui sont tenaces, qui sont pas, je dirais, liés nécessairement à la tech, mais qui sont ceux de la société dans son ensemble, en fait.
Alors vous avez justement évoqué le parallèle entre un homme blanc et des femmes. J'imagine, Isabelle Collet, que c'est déjà compliqué pour des femmes. C'est peut-être encore plus compliqué lorsque ce sont des femmes issues des diversités et qui ne sont pas forcément des femmes blanches.
Alors, c'est encore plus compliqué. En fait, la clé, si l'on peut dire, de compréhension, c'est pas tant que la discipline soit jeune ou pas. C'est vrai qu'on avait beaucoup rêvé. Dans les années 80, on pouvait lire des travaux de sociologie qui disaient, voilà, c'est une discipline toute neuve et donc on va pouvoir repartir à zéro. En fait... Les groupes dominants suivent là où il y a le pouvoir. Peu importe que la discipline soit jeune, vieille, les choses se retransforment et se reconfigurent. Là, actuellement, très clairement reconfiguré en faveur des hommes blancs des classes professionnelles supérieures. En fait, il faut mettre tous ces éléments-là pour avoir le
l'archétype,
groupe.
L'archétype.
Voilà, pour avoir l'archétype. Parce que c'est une zone de pouvoir. Par exemple, sur la question des classes sociales, l'informatique a été, pendant les années 80-90, une discipline où, alors c'était plutôt les jeunes hommes que les jeunes femmes, mais où les jeunes hommes des classes défavorisées pouvaient tirer leur épingle du jeu. Ou éventuellement des jeunes hommes issus de la migration qui pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et puis, plus c'est devenu des filières prestigieuses, plus les écoles se sont mises à être sélectives, plus il y a eu d'offres, plus ces populations se sont retrouvées défavorisées. Donc, en effet, il est absolument fondamental aussi de ne pas oublier, dans les actions incitatives, de se tourner vers tous les publics qu'on appelle éloignés de la tech, et donc en particulier les femmes non blanches.
Voilà, qui est donc un combat supplémentaire par rapport justement aux problématiques que l'on évoque depuis le début de cette émission, où il est grand temps peut-être de lancer une grenade. Enfin, la grenade de Clara Luciani.
Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne, prends garde sous mon sein là.
Prends garde à la grenade de Clara Luciani dans Le Meilleur des Mondes.
Les nouvelles du Meilleur des Mondes, François Saltiel.
Et on commence ce journal par les belles promesses que l'on finit parfois par regretter. C'est sans doute ce qui arrive à Eric Adams, le tout nouveau maire de New York qui s'était engagé au moment de sa campagne à recevoir les 3 premiers mois de son salaire en Bitcoin et en Ethereum, des crypto-monnaies. L'objectif, vouloir faire de Big Apple une place forte du marché des crypto-actifs et envoyer un signal vers les acteurs du secteur pour qu'ils s'établissent en ville. D'ailleurs, au moment de cette promesse, le cours était très haut, autour de 60 000 $ pour un Bitcoin. Il tourne en ce moment à 32 000 $, idem pour l'Ethereum qui a fondu de moitié. Eric Adams paye donc au prix fort la volatilité des crypto-monnaies dont le succès repose avant tout sur la puissance d'une croyance collective. Et lui aussi d'ailleurs semble moins y croire. C'est Mark Zuckerberg qui baisse les bras et les armes en cherchant à revendre les actifs de Diem, sa crypto-monnaie. Il aurait d'ailleurs réussi à trouver un acheteur. Donc il en est fini de Diem. Celle-ci faisait face, selon lui, à de trop nombreux obstacles financiers et politiques, un peu comme le Salvador qui, cette semaine, s'est fait redresser les oreilles par le FMI qui estime que le pays n'aurait jamais dû ériger le Bitcoin en monnaie légale nationale. Rappelez-vous, c'était une première mondiale. Le Fonds monétaire international lui demande donc de faire machine arrière. Morale de toutes ces petites crypto-histoires, toutes ces mésaventures devraient donc encourager les acheteurs à investir massivement dans le cours du Bitcoin puisque c'est une affaire à saisir. Il est faible comme celui de l'Ethereum, ne serait-ce que pour que le maire de New York puisse s'acheter des belles pommes. Croyance également tenace dans le monde de la tech américaine. Nous avons des nouvelles de la start-up Altos Lab qui promet rien de moins que la vie éternelle. Celle-ci annonce avoir rassemblé 3 milliards de dollars pour financer un pool de chercheurs au CV incroyable. On y retrouve le prix Nobel 2012 pour ses travaux sur les cellules souches, une co-lauréate du prix Nobel 2020 sur la technique d'édition du génome, etc. Alors leur grand projet, parvenir à la reprogrammation biologique, soit rajeunir le corps humain pour éviter qu'il ne vieillisse et pouvoir guérir donc certaines maladies dit en temps réel. Alors parmi les investisseurs, on retrouve des vieux routiers du transhumanisme comme Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Voilà pour le fantasme de l'homme immortel qui valait 3 milliards de dollars.
Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Et on reste dans la recherche de la vie éternelle, mais cette fois-ci avec l'application Replica qui vous permet de créer votre avatar qui peut vous survivre ou de converser avec d'autres chatbots, des robots conversationnels. Le site américain Futurim a repéré une désespérante tendance, celle d'hommes qui s'amusent à créer des compagnes féminines pour les insulter, les maltraiter et laisser libre cours à leur violence. Des messages relayés par la suite sur des forums où ces hommes se concurrencent dans la publication de messages haineux, à croire que les femmes, dans la tech, même lorsque qu'elles prennent les traits de robots, ne sont jamais à l'abri de maltraitance. Qu'est-ce qu'elle vous évoque, Isabelle Collet, cette dernière brève autour de Replica, de ces robots conversationnels donc féminins qui sont agressés, maltraités par les hommes?
Rien de neuf, hein, Cyrus le connaît déjà, ce phénomène. C'est-à-dire que il y a un rapport de l'UNESCO qui avait montré, qui avait analysé ce qui se passait si on faisait du harcèlement auprès des agents conversationnels, et le rapport s'appelle « Je rougirais si je le pouvais ». C'est ce que Siri répondait quand on l'a traité de salope. D'autres évadaient la question, d'autres disaient « Merci pour le feedback ». Donc ça fait un très bad buzz, et donc maintenant ça ne se produit pas, ça ne se produit plus, c'est-à-dire qu'elle refuse, les agents conversationnels féminins refusent de répondre. On a eu un scandale du même genre avec des robots silicones ou des poupées silicones au Japon, c'est-à-dire que bah oui, il y a un certain nombre d'hommes qui sont violents, haineux et qui tiennent ce genre de propos envers les femmes, et des micro-sociétés virtuelles Internet leur permettre aussi de se réunir et d'en débattre. La cyber-haine, la violence en ligne contre les femmes, effectivement, on connaît.
Déborah Lloyd, ça vous inspire quoi ?
C'est intéressant. On a l'impression que en ligne les choses devraient mieux se passer que dans la société pour une raison inconnue. En réalité, les algorithmes reflètent la réalité de nos sociétés. Comment fonctionne un algorithme ? Ben tout simplement, c'est une formule mathématique qui est entraînée sur la base de données. Donc, lorsque les données sont biaisées, eh bien le résultat est biaisé. On reproduit ce qui se passe hein, dans le monde. Il y a pas de raison que de manière magique on arrive à se sortir des biais sexistes dans la tech, et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience du problème et puis activement le contrer.
Anne-Marie Kermarek, on a parlé de Siri, on pourrait parler d'Alexa. Comment ça se fait que ce soit toujours des voix ou des personnages, des voix féminines qui incarnent ces assistants vocaux ?
Alors ça, effectivement, je pense que c'est uniquement le reflet de ce qu'est notre société, de ce qu'on imagine. De toute façon, tous ces produits-là sont quand même des produits commerciaux. Donc l'éthique a peu à voir avec tout ça. L'objectif de ces compagnies, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est de gagner de l'argent. Et avec quoi on gagne de l'argent aujourd'hui ? Comme dans la publicité, en colportant les clichés, en faisant finalement, en reflétant ce qu'est la société, ça reste, manifestement en tout cas, le meilleur moyen de gagner de l'argent. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que ce soit comme ça. Et c'est vrai pour les fake news, c'est vrai pour tout un tas de choses. Dès l'instant où on a un produit commercial et où l'objectif, c'est de faire marcher le plus possible et de ne pas mettre l'éthique en première ligne, c'est normal que ce soit comme ça. Après, sur les biais, je voulais juste rebondir un tout petit peu. C'est clair qu'il y a des biais algorithmiques, parce que comme le disait très bien Déborah, un algorithme, l'avantage, c'est que ça fait ce qu'on lui dit, mais aussi avec ce qu'on lui fournit comme entrée. Et typiquement, l'apprentissage aujourd'hui consiste à apprendre d'un ensemble de données du passé pour pouvoir prédire, générer des choses qui vont soit des choses artificielles, soit prédire ce qui va pouvoir se faire. Si les données sont biaisées, eh bien, on va reproduire, évidemment, ce sur quoi on a appris. Donc c'est pour ça que assez rapidement, quand on met un chatbot et qu'on lui fait comme l'a fait le robot sur Twitter à Microsoft, il y a quelques années, on lui fait prendre les traits d'une adolescente et puis que on le manipule un peu, eh bien il finit par avoir des propos odieux, sexistes, racistes, etc. Après, la bonne nouvelle quand même, c'est qu'un algorithme, encore une fois, fait ce qu'on lui dit. C'est-à-dire que si on est conscient de ses biais, eh bien, on peut les corriger. On peut ce qu'on appelle sanétiser, je trouve pas le terme en français, mais les rendre plus propres de manière à débiaiser ces ensembles de données et à rendre des algorithmes, de faire des algorithmes un peu plus éthiques. Ça, c'est possible. Il suffit d'en prendre la peine. Et clairement, d'avoir des femmes dans la tech pour ces raisons-là, c'est aussi très important parce qu'elles sont vigilantes à ces biais-là. Et donc, ça peut être une bonne manière de les
tout simplement parce qu'elles les vivent et qu'on n'est pas obligé de compter sur l'empathie des Exactement. Hommes qui les programment, d'où l'importance justement d'avoir une proportion importante de femmes. Et ça me fait penser aussi aux ces applications de santé qui n'ont pas inclus les cycles menstruels pendant des années et des années, tout simplement parce que les hommes qui les programmaient n'étaient pas forcément concernés. Isabelle Collet.
Oui, alors je voulais dire quelque chose sur ces assistants vocaux. Souvent, on me dit... Oui, mais les assistants vocaux, ils ont aussi des voix d'hommes. Siri peut parler avec une voix d'homme, ce qui est absolument vrai. Ce qui est très intéressant quand on lit ce fameux rapport de l'UNESCO, on parle souvent de biais inconscient, c'est-à-dire on vit dans un monde sexiste et le numérique, finalement, n'est que le reflet déformant, éventuellement, un miroir de ce monde sexiste. Et c'est bien en conscience, c'est pratique de dire qu'ils sont inconscients, ça nous dédouane. On aurait été conscient, vous pensez bien qu'on n'aurait pas fait ça. Ce qui est très intéressant avec les assistants vocaux, c'est qu'on peut voir dans ce rapport que Dans certaines langues, on avait des voix masculines, une voix masculine pour Siri, pas dans toutes les langues. Et par exemple, on l'avait en français de France, on l'avait en arabe classique et en anglais de Grande-Bretagne, parce qu'il était précisé que c'était des pays habitués à une certaine domesticité masculine. Alors que ce soit vrai ou pas, peu importe, mais ça voulait bien dire que la voix qui était prise par l'assistant vocal était une voix qui pouvait être une voix d'une personne indéfiniment à votre service, toujours polie, tel votre domestique, et que visiblement ça s'incarnait mieux dans une voix de femme. Donc c'était pas du tout un biais inconscient, c'était peut-être le genre de voix que les développeurs avaient plutôt envie d'entendre dans la phase de test, mais dans la phase où ça a été relâché sur où c'est devenu vendable, c'était plus du tout un biais inconscient, c'était un biais stratégique.
Alors c'est clair. Alors Déborah Lloyd, quand même, quand on Anne-Marie Carmack nous disait oui, quand on est justement dans le monde du commerce, l'éthique ne passe pas au premier plan. Mais quand même aujourd'hui, on sait très bien que ça peut abîmer une réputation, une image de marque. On a vu justement les effets quand même délétères, si on parle que de la finance, sur l'image de marque des géants de la tech comme Facebook, comme Google, ou qui sont maintenant rarement épargnés. On est passé de la phase de l'enchantement, on les trouvait tous merveilleux et magiques, à un retour de bâton. On va de plus en plus les critiquer, donc ça devrait quand même les inquiéter.
Les arguments sont nombreux, il y a l'argument éthique, évidemment, si on ne mise pas là-dessus et qu'on est un peu plus cynique, on peut miser sur la communication et l'image. Il y a un argument économique aussi, de tout simplement de productivité, hein. Il y a beaucoup d'études qui montrent que plus une équipe est diverse, plus elle est productive. Et puis, il y a des arguments qu'on a évoqués tout à l'heure, qui sont les arguments produits, de faire des produits qui sont utiles pour tout le monde. C'est intéressant, par exemple, de parler des femtech, c'est-à-dire les technologie dédiée aux femmes. J'ai rencontré plusieurs femmes entrepreneurs qui avaient développé ces produits-là et à qui les investisseurs répondaient qu'il s'agissait de marchés de niche et que donc ils ne souhaitaient pas financer.
Oui, parce que les femmes ne sont que 3% de la population, je
crois,
mondiale.
Exactement, c'est ça à peu près, oui.
Donc on voit effectivement qu'il y a encore tout un long chemin à entreprendre. Alors justement, puisqu'on parle de chemin, parlons du chemin de l'école et puis essayons d'aborder peut-être la partie solution, puisque si j'ai bien compris, il y a un problème de représentation, il y a donc de nombreuses femmes qui sont en minorité dans des situations d'enseignement technologique et donc qui peuvent être l'objet de comportements toxiques. Donc comment on fait justement pour arriver à intéresser, à rassurer peut-être, à inclure une proportion de femmes plus importante dans les écoles qui forment les ingénieurs de demain, Isabelle Collet?
Alors déjà, c'est pas en disant aux femmes, venez, vous allez voir, ça va être super, vous vous orientez mal, réalisez que ce serait bon pour vous de venir. Ça, c'est un discours qui est contre-productif, qui est pas crédible et qui, de toute façon, ne déchaîne pas les foules, surtout quand vous avez 14, 15 ou 16 ans. L'autre chose, c'est que on entend beaucoup dire, il faut commencer le plus tôt possible, avec une pensée un peu magique de se dire que si on allait avoir des enfants tout déstéréotypés à l'école primaire, ils allaient magiquement nous produire un monde tout déstéréotypé. Non, c'est pas vrai. Alors, je dis pas qu'il faut pas agir à l'école primaire, hein, mais que simplement penser que ça va suffire et qu'après, ces enfants, garçons et filles, seront absolument convaincus de leur égalité, alors qu'ils sont toujours élevés dans le même monde visiblement inégalitaire, ça tient pas la route. Quand on dit aux élèves, les métiers n'ont pas de sexe, ils font semblant de vous croire parce que c'est une pensée commune, mais ils regardent autour d'eux, ils voient bien que c'est pas ça. C'est-à-dire que l'école n'est pas en amont de la société, elle est en aval, c'est-à-dire quand on se projette dans un métier où il y a 90% d'un sexe pour 10 de l'autre, et qu'on n'est pas du côté des 90%, on a du mal à imaginer qu'on y sera. Donc ça, c'est une première chose. Pour pouvoir inciter plus de filles à aller dans ces métiers, ben, une des toutes premières choses, c'est de dire, c'est pas tant vous qui avez besoin de ce métier, c'est ce métier qui a absolument besoin de vous. C'est-à-dire, vous êtes espérés, vous êtes attendus, on souhaiterait que vous y soyez plus nombreux. C'est-à-dire, c'est pas, on a déjà les mecs, et ça marche bien comme ça, on va tolérer votre présence, ce qui est un peu le sentiment qu'on a en ce moment.
En mode un peu quota obligatoire.
Voilà, et puis se dire, ouais, ce serait bien pour une question de justice sociale, mais au fond,
on n'a
pas tant que ça.
Ouais.
C'est dire que on va nécessairement faire un travail moins bien, une tech moins intéressante, moins performante, moins inclusive, moins juste, et que c'est complètement absurde de faire une transition numérique sans la moitié de la population, c'est quand même beaucoup plus motivant de se dire on vous attend, on a besoin de vous. Donc ça, c'est une première chose. Puis ensuite, il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que ces filles qui se retrouvent dans ces endroits, si elles ont l'impression qu'elles ont juste toléré, que comme on entend quand on va faire des interviews dans des écoles d'informatique, oui, enfin, vous savez, c'est quand même un monde d'hommes, ou oui, enfin, elles savaient bien à quoi s'attendre. C'est-à-dire, elles doivent s'adapter la situation, ça va pas du tout. Il faut que ces lieux soient impérativement des safe spaces. Et tant que ce ne sont pas des lieux où elles ont le sentiment d'être tout aussi légitimes que n'importe qui d'autre, forcément, enfin, on n'attire pas des mouches avec du vinaigre, quoi. Ça ne fonctionnera pas.
Déborah Loye.
La narration a beaucoup tourné autour de la culpabilisation des femmes, c'est-à-dire il faut que les jeunes filles s'intéressent à ces matières-là, il faut qu'elles osent y aller, il faut qu'elles osent entreprendre, il faut qu'elles soient ambitieuses, il faut qu'elles soient audacieuses.
Oui, qu'elles arrêtent un peu de s'auto-censurer.
Oui, voilà, c'est ça, s'il vous plaît. En réalité, il faudrait surtout que structurellement, on les accueille dans ces écosystèmes-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui dire aux jeunes filles de 13 ans, on sait que c'est à 13 ans hein, en général que la fourchette arrive et qu'elles partent de ces domaines-là. On ne peut pas dire à ces jeunes filles, venez dans ces écosystèmes, montez des start-up et puis au moment où elles y arrivent, soit dans une boîte tech, effectivement, elles subissent du sexisme. Et lorsqu'elles montent une entreprise en se disant, je vais échapper au plafond de verre puisque je vais être ma propre boss, en réalité, elles n'y parviennent pas parce que lorsqu'elles vont voir des investisseurs, la personne en face d'elle ne les traite pas comme elle devrait être traitée en tant que chef d'entreprise. Donc, il est extrêmement important de voir ce problème de manière structurelle, de l'adresser et de faire prendre leur responsabilité aux différents acteurs qui animent ces écosystèmes pour que réellement, on puisse aller sereinement dire à ces jeunes filles de 13 ans qu'il faut qu'elles se dirigent vers ces métiers-là.
Oui, donc on voit que, si je vous entends, ça marchera que s'il y a une volonté politique déjà très forte, une volonté sociétale. Et malheureusement, lors des toutes dernières nouvelle qu'on vient d'entendre, c'est pas forcément très encourageant, notamment sur la proportion des filles à s'impliquer dans des filières scientifiques et surtout mathématiques.
On était arrivé, après des efforts continus, à ce que le pourcentage de jeunes filles dans les classes de terminale S soit pratiquement égal à celui des garçons. On était à 48%. Et là, il semble que avec la réforme, le pourcentage de jeunes filles qui ont choisi de faire des mathématiques plus intensives est dégringolé à 10%. Donc en 2 années, on a perdu 20 ans d'efforts. Évidemment, ce n'était pas du tout l'intention. Mais on sait bien que les jeunes filles sont beaucoup plus, beaucoup plus exigeantes sur elles-mêmes. Et même si elles font des mathématiques avec plaisir, même si elles ont des bons résultats, elles se disent « oui, mais c'est trop dur pour moi ». Et ça, c'est dramatique pour l'avenir même de la France, je veux dire. On a besoin des femmes.
Jean-Pierre Bourguignon, donc au micro de France Inter, qui est un mathématicien. Isabelle Collet, nouvelle dramatique ou pas?
Alors oui, c'est très problématique. Et alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Bourguignon. Il y a juste un point que je préciserai. C'est pas tant qu'elles sont plus exigeantes avec elles-mêmes, c'est qu'on n'a pas arrêté de leur dire que quand elles étaient bonnes en maths, c'est parce qu'elles faisaient tout ce qu'elles pouvaient. Les filles sont toujours perçues comme au maximum de leur effort, alors que les garçons seraient toujours perçus comme sous-réalisateurs. C'est-à-dire, en gros, ils se donnent pas au mieux, vous savez, ils sont un peu feignants, et puis un jour, ils vont s'y mettre, et ça va être extraordinaire.
Ça donne pas les moyens de réussir, mais voilà. à les compétences.
Voilà, c'est ça, c'est inné chez eux. Bon, déjà, c'est un pur pari, peut-être qu'ils s'y mettront jamais, on n'en saura jamais rien. Mais les filles, elles sont pas du tout à fond non plus. J'avais demandé à des filles en école d'ingénieur, est-ce qu'en terminale, vous faisiez tout votre possible? Bah non, elles ont dit. Mais est-ce que vous le précisiez à vos enseignantes? Bah non, on les laissait tranquilles. Bon, à l'arrivée, on a moins confiance en soi si on est vu comme étant au mieux de ses capacités. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement au lycée? Alors, les filles gardent... Alors, maintenant, on fait des choix où on a une triplette, trois matières jusqu'en première, et en première, on doit en abandonner une sur les trois pour aller en terminale. Et là, il y a ce mythe tenace dans l'éducation que tous les ans, c'est plus dur l'année d'après que l'année d'avant. Alors que c'est absolument pas vrai, on peut se révéler en terminale alors qu'on n'était pas terrible en première, on peut trouver ça plus simple, moins simple, enfin bref. Donc les filles, elles ont des notes tout à fait correctes, voire bonnes, voire très bonnes en maths, et elles se disent « ouais, mais l'an prochain ». Si ça se trouve, je vais m'écrouler. J'ai toutes les raisons de pas avoir confiance en moi parce qu'on n'arrête pas de me dire que les maths, c'est pas pour moi. Je joue la sécurité, j'abandonne les maths. Et donc, elles ne gardent pas les maths, surtout qu'elles sont excellentes aussi dans les autres matières. Et donc, c'est également aussi ce qu'on leur conseille. Regarde, tu es excellente en histoire géo, tu es excellente en... Pourquoi tu garderais les maths? Alors là, tu es juste très bonne. Et l'autre souci, c'est que comme elles abandonnent les maths, donc on les a pas dans ces filières scientifiques expertes, avant cette réforme, les filles étaient majoritaires dans les mentions bien et très bien de la terminale S. Donc ça veut dire qu'elles étaient bonnes en maths, mais elles étaient bien meilleures que les garçons. Ce que peuvent anticiper les écoles d'ingénieurs, c'est une baisse de niveau.
D'accord, mais effectivement, ça me laisse quasiment sans voix et presque sans espoir, à moins que l'espoir vienne justement des modèles, des représentations, puisque c'est souvent ce qui peut être un déclencheur. Rapidement, qu'en est-il, Anne-Marie Kermarec, de ces modèles, de ces grandes incarnations? Il y en a quand même quelques-unes. Est-ce que ça peut jouer en faveur des vocations, de déclencher des envies?
Oui, oui, c'est vrai. Alors, je veux juste me permettre de rebondir sur l'intervention de Monsieur Bourguignon, qui est extrêmement vrai. Hein. C'est malheureusement dommage, en outre, pour l'informatique, qui a été une spécialité qui a été introduite très récemment, concomitamment avec la réforme du bac, et qui, de fait, se retrouve complètement délaissée de manière générale, et encore plus par les filles. Donc, c'est vraiment ça, c'est une première chose. En outre, cette réforme du bac, elle a mis les sciences un petit peu comme au second plan, puisque dans le tronc commun de cette réforme, en fait, on se retrouve avec uniquement, si on prend pas les spécialités, seulement 2 heures consacrées aux sciences. Donc là, il y a un vrai problème, hein, et je pense que ça va pas du tout vers plus de filles dans les milieux scientifiques. Alors sur les rôles modèles, c'est clair que je pense que les jeunes filles, elles ont besoin aussi d'avoir un certain nombre de rôles modèles pour pouvoir, en tout cas, s'identifier et se dire que ben, finalement ce sont aussi des métiers pour elles. Après là il y a un petit peu il faut faire attention à cette chose là en l'occurrence. On a une petite tendance, quand on s'est intéressé à ces rôles modèles, à mettre en avant des carrières exemplaires, c'est-à-dire des scientifiques de renom, des femmes qui ont très beaucoup réussi dans les domaines dans les GAFAM, etc. Et là, il y a un petit peu, ça peut paraître aussi parfois un peu contre-productif.
Oui, parce que ça peut complexer.
On peut avoir l'effet, bon, si en fait pour réussir dans ces domaines scientifiques, il faut s'appeler Marie Curie, bon voilà, la chance, elle est juste minime, donc j'ai plutôt m'intéresser à faire autre chose. Donc il faut faire attention à avoir des rôles modèles justement qui soient accessibles. Et bon, là il y a énormément d'initiatives, hein. Il y a des journées femmes ingénieures en France dans les classes de troisième auxquelles moi j'ai souvent participé du reste, bon, qui permettent de montrer à ces femmes qu'il y a des métiers qui sont intéressants, etc. Mais donc c'est un petit peu faut être prudent avec ça. Mais c'est clair que c'est extrêmement important.
Alors, vous avez cité Marie Curie, elle ne s'appelle pas Marie Curie, mais Marie Turcan. Mais oui, vous la sentez venir, évidemment, cette transition, Marie, puisque vous me connaissez bien, vous êtes chroniqueuse chez nous, et justement, vous avez consacré cette chronique à la question des rôles modèles qui peuvent être donc contre-productifs.
Eh bien, tout à fait, François, parce que depuis la dizaine d'années que je travaille maintenant dans le milieu de la tech, j'ai pris conscience d'un phénomène assez marquant. Quand on aborde la question de la représentativité des femmes dans le numérique, on a tendance à mettre en avant des success stories, des femmes qui ont réussi contre vents et marées, là où tant d'autres se sont heurtées au fameux plafond de verre, où l'on valorise souvent des caractéristiques qui sont liées à la prise de décision, à l'entrepreneuriat, au pouvoir. Pour certaines start-upeuses, on va vanter l'ampleur des montants qu'elles ont réussi à lever. Pour d'autres, ce sera leur capacité à tout allier, vie privée, vie professionnelle, présence médiatique et bien sûr une bonne dose de charme pour compléter le portrait d'un fascinant cyborg à qui tout réussit. Ça m'a fait penser à cette série sur Netflix qui s'appelle Girl Boss, où l'héroïne veut se détacher de l'oppression des plateformes numériques en créant sa propre plateforme numérique.
Une fois que t'as perdu la confiance d'eBay, tu peux plus rien y faire.
Je crois que la meilleure chose pour toi, ce serait que tu reviennes chez nous ou je garderai un œil sur toi.
Pas question. Je vends pas des animaux en peluche comme une gamine, merde. Je ferai mon propre site. Peut-être que ça marchera, peut-être que non. Mais ce sera à moi.
Au départ, le terme girl boss désignait donc une femme qui a réussi à prendre le pouvoir dans une industrie dominée par la gente masculine. Mais le terme s'est teinté négativement. Certaines reprochent aux fameuses girl boss de reproduire les mêmes schémas oppressifs que l'on condamne chez les hommes dans un environnement capitaliste où la croissance économique prime sur le reste. La question se pose alors, a-t-on vraiment envie que les femmes dans la tech fassent comme les hommes dans la tech ? Comme cela semble parti, le futur du numérique ressemble tristement à son passé. On parle de métaverse, de NFT, de web décentralisé, des concepts portés majoritairement par des voix masculines, où les femmes se retrouvent exclues de la construction des fondations et destinées à prendre à nouveau le train en marche.
Alors que faire pour tenter de les inclure dans cette construction ?
Je décalerai la réflexion ailleurs. Ces projets, aussi novateurs soient-ils, incarnent-ils vraiment le futur que l'on souhaite pour le numérique de demain ? N'aurait-on pas vraiment mieux à faire que d'inventer des NFT qui ajoutent une nouvelle couche de propriété au web actuel, prétendument au passage en voie de décentralisation entre guillemets ? En politique, on a la notion d'écoféminisme qui commence à faire son chemin. On y réfléchit à la manière dont la société s'est construite dans le passé pour y montrer notamment les liens entre la domination masculine et la crise environnementale et ainsi éviter de reproduire ces mêmes erreurs. Je vous le dis ce soir, très honnêtement, si dans 10 ans on devait célébrer la première femme à prendre la tête d'un univers virtuel dans le métaverse, je prendrais plutôt ça comme un échec que comme une réussite.
Merci beaucoup Marie Curie-Turcan pour cette chronique.
Déborah Lloyd. Changer ma bio Twitter.
C'est ça, changez-la tout de suite Déborah Lloyd. Ça peut peut-être déclencher quelques investissements d'ailleurs si vous mettez à faire de l'entrepreneuriat. Vous justement Déborah Lloyd qui êtes en contact régulier avec ces femmes qui tentent aussi d'arriver peut-être en haut du podium et pourquoi pas même d'être des licornes puisque c'est un mot et un animal à la mode. Qu'est-ce que ça vous inspire la chronique de Marie Turcan?
Complètement d'accord sur effectivement la perspective que donne la métaverse en ce moment. N'oublions pas qu'il s'agit d'un outil comme toute technologie et qu'effectivement il y aurait des choses peut-être plus intéressantes à faire que de vendre des baskets virtuelles qui est ce qui est en train de se passer en ce moment. Et effectivement peut-être que s'il y avait plus de femmes dans cet écosystème blockchain crypto, on ferait autre chose que des baskets virtuelles. Ce serait souhaitable. Effectivement, on peut parler rapidement des licornes. Aujourd'hui, selon les chiffres du gouvernement, il y a 26 licornes en France. Qu'est-ce qu'une licorne ? C'est une entreprise technologique valorisée plus d'1 milliard de dollars. Emmanuel Macron s'était donné un objectif de 25 licornes. On est aujourd'hui à 26, donc objectif atteint pour lui. Petit problème, une seule de ces entreprises a été cofondée par des femmes. Toutes les licornes qui ont été annoncées en grande pompe ce début d'année sont cofondées exclusivement par des hommes.
Quand vous dites cofondées, pardon, ça veut dire une femme et un homme?
Exactement, au moins une femme.
Donc il y a une licorne qui est mixte, mais zéro qui est 100% féminine.
Absolument, tout à fait. C'est deux femmes sur 5 ou 6 cofondateurs. Il s'agit de vestiaires collectifs. C'est un problème. Il y a une solution à ça. C'est quand on est un homme et qu'on crée une start-up, on s'associe à une femme, tout simplement.
Alors, pour éviter justement ce que Marie Turcan avait projeté dans 10 ans, la chute de sa chronique, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'en 2032, si tant est que je sois encore sur France Culture, je ne fasse pas la même émission ? Isabelle Collet.
Alors, on n'a même pas besoin de se projeter à 2032. Il y a des écoles telles que Carnegie Mellon aux États-Unis, NTNU en Norvège. Elles se sont pas projetées à 30 ans, elles se sont projetées à 2-3 ans. Alors autant pour les gens qui disent oui, ça va être l'espace d'une génération. Alors moi, l'espace d'une génération, ça me va pas. J'ai passé l'âge d'attendre la génération d'après. Surtout qu'on me fait ça depuis que j'ai 20 ans, donc c'est vraiment pas convaincant.
Vous l'avez dit hier.
Ouais, c'est ça. Et alors en fait, comment ces écoles s'y sont prises ? Alors elles ont eu deux stratégies tout à fait différentes. Carnegie Mellon a une stratégie ambitieuse, effectivement, qui a coûté de l'argent, qui a demandé du recrutement, qui a demandé un travail de recherche. Mais avec un certain nombre de mesures, ils ont repensé en particulier leur procédure de recrutement, repensé leur manière d'enseigner, repensé aussi le contenu des cours. Ils ont donné des cours sur le genre pour que garçons et filles comprennent pourquoi ce monde de la tech était à ce point disproportionné. Ils ont recruté plus de femmes dans l'équipe pédagogique. Et ben, en 3 ans, ils sont passés à 40%, puis 40%. Actuellement, ils sont paritaires. Évidemment, on n'a pas attendu une génération, on a attendu 3-4 ans. NTNU, ils s'y sont pris d'une autre manière. Alors, ils ont fait beaucoup de publicité dans les écoles, dans les cinémas, ils ont fait des journées portes ouvertes réservées aux filles. Mais surtout, ils ont mis en place une politique de quotas. Alors, la politique de quotas, souvent, ça fait grincer des dents. Moi, je dis toujours que c'est intellectuellement décevant, pragmatiquement efficace. Alors, comment ils s'y sont pris ? Ils ont recruté la promo de façon normale et les 30 places venant ensuite uniquement pour des femmes. Eh bien, dès l'année suivante, ils sont à 30% de femmes. Aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de quota pour avoir la parité.
Eh bien, on va suivre justement vos deux préconisations. Du moins, on l'a compris, le quota qui n'est pas forcément celle qui flatte le plus l'intellectuel, mais qui permet d'être efficace. Et puis, la seconde qui, si j'ai bien compris, est plutôt dans une pédagogie, essayer d'expliquer, de comprendre les racines et les origines du problème. Et puis, d'en faire justement un avantage pour arriver à le résoudre et d'intégrer encore plus de femmes. Merci à vous de m'avoir accompagné toutes les quatre pour cette émission sur les femmes dans la tech. À quand la révolution? On a compris, c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 3 ans, c'est déjà demain, voire ce soir. Merci à beaucoup. Juliette Deveau pour la préparation de cette émission, à Nathalie Salle à la réalisation et ce soir à la technique, c'était Florent Bujon, et on vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour un prochain Meilleur des Mondes.